Pour le moment, j'ai devant moi Héloïse Allard. Elle est ergothérapeute propriétaire de la clinique pour enfants ErgoClick. Merci d'être là, Héloïse.
Tout le plaisir est pour moi.
Ce mois de novembre, mois de sensibilisation aux troubles d'apprentissage, ça touche 800 000 personnes au Québec. C'est énorme.
C'est énorme. C'est incroyable. C'est beaucoup d'enfants par classe. Alors, c'est beaucoup pour les enseignants. Et peu de ressources,
ouais, et beaucoup de travail pour les parents, là, avec les devoirs, avec la routine à la maison. On est là aujourd'hui pour donner des outils concrets, pour parler, bien sûr, de ce quatrième grand défi de l'apprentissage qui est destiné justement aux parents. Votre spécialité, vous, Héloïse Allard, c'est la dyspraxie, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Donc, en ergothérapie, on adresse tout ce qui est moteur, motricité, tout ce qui est sensoriel, et je me spécialise, entre autres, avec la dyspraxie.
C'est quoi ça?
La dyspraxie. Donc, dys veut dire difficile et praxie veut dire mouvement. Donc, les mouvements de l'enfant sont difficiles à réaliser en séquence, par exemple, pour s'habiller. Donc, mettre le manteau, enclencher la fermeture éclair, la montée, tout ça, c'est plusieurs étapes. Et pour l'enfant, c'est ardu. Donc, les enfants qui sont dyspraxiques sont souvent perçus comme des enfants maladroits, parfois paresseux. Et ce n'est pas le cas. Et parfois, certains deviennent des clowns, ce qui est un bon mécanisme de défense, mais c'est parce que c'est très difficile. Donc, les mouvements pour eux sont difficiles. Et il y a plusieurs types de dyspraxie. On appelle aussi le TAC, trouble d'acquisition de la coordination.
OK.
Les deux terminologies sont similaires et sont utilisées presque comme des synonymes à l'heure actuelle. Par contre, c'est des terminologies qui évoluent dans le temps selon les régions, selon les pays et aussi selon les professions.
Oui.
Donc, voilà.
J'imagine aussi l'intérêt que les chercheurs ou que les spécialistes de la santé ont envers les troubles d'apprentissage dans différents pays. J'imagine que ce sont souvent des enfants qui sont marginalisés dans les cours d'éducation physique, par exemple.
Oui, tout à fait. Dans les cours d'éducation physique, quand c'est la motricité globale qui est affectée, mais parfois, ça peut être la calligraphie seulement. Et à ce moment-là, c'est des enfants qui deviennent illisibles. On parle alors d'une dysgraphie, donc c'est une branche de la dyspraxie. Il y a des enfants pour qui c'est simplement l'habillage ou les activités en séquence. Donc, un portrait type d'un enfant qui a une dyspraxie, c'est l'enfant qui est maladroit, en garderie, qui a des difficultés à s'habiller aussi vite que les autres, qui échappe, qui trébuche, qui s'enfarge. Quand il grandit, rendu à l'école, pour lui, les devoirs, c'est très pénible, l'écriture, c'est très ardu. Et plus les apprentissages augmentent, plus c'est exigeant pour lui parce qu'il doit dépenser une énergie pour l'activité motrice, entre autres, de l'écriture.
Donc, ce que je comprends, Héloïse, c'est que ça s'identifie quand même assez tôt, la dyspraxie.
C'est très méconnu et c'est ce qu'on appelle le handicap invisible.
Ah, OK.
Donc, on estime qu'il y a un enfant sur cinq par classe qui en serait atteint. Mais ce n'est pas un enfant sur cinq qui est diagnostiqué. Donc, c'est vraiment méconnu. Et ce n'est pas tous les ergothérapeutes ni tous les médecins qui sont au fait de qu'est-ce que la dyspraxie. Mmh.
Maintenant, votre approche à vous, Héloïse Allard, c'est que bouger peut aider ces enfants dans leurs troubles d'apprentissage. Les adultes aussi, hein, parce que bouger pour apprendre, c'est bon pour bien des personnes.
Absolument, absolument. Je vous regarde, vous et moi, on bouge en parlant. Ça nous aide à rester attentif. C'est pas rare si on est en voiture et on est un peu fatigué. Mmh. Le meilleur exemple que j'ai à donner, c'est que notre premier réflexe, c'est de prendre de la gomme pour stimuler les muscles de la mâchoire et hop, ça nous réveille. Donc, on bouge un peu, pas beaucoup, mais ça nous éveille beaucoup. Il y a une grande différence pour moi entre lire un mot. Paraît-il qu'on le retient à 10 % après 24 heures. Si on l'entend, on le retient à 20 à 30 % après 24 heures. Okay. Et si on est actif ou on bouge, on le retient à 90 % après 24 heures. Alors, je mets l'emphase sur bouger pour apprendre. Mm-hmm. Je trouve que c'est extrêmement important.
Mais il y a quand même un paradoxe dans l'enfant qui a de la difficulté à bouger, c'est-à-dire là, on parle de séquence, et qui l'apprend quand même en bougeant. Vous expliquez ça de quelle façon?
Oui, c'est vrai. On encode mieux en mémoire lorsqu'on bouge. Par exemple, pour les mots de vocabulaire, les copier plusieurs fois, c'est bien, mais ça active seulement les muscles de la main. Ça peut être ardu pour les dyspraxiques. Alors, à ce moment-là, bon, on encode à 10 à 30 % parce qu'on a été un peu actif, mais peu. Mm-hmm. Et, mais si on saute sur un trampoline chaque lettre du mot, moment-là, okay. je peux vous dire que le mot est beaucoup plus solidement encodé en mémoire.
Et il y a aussi la dimension de s'amuser en... avec l'apprentissage.
Absolument. Quand je dis être actif et bouger, ça implique le plaisir, la musique et tout ça. Et pour les ergothérapeutes, notre dada, c'est la proprioception ou l'apprentissage qu'on appelle kinesthésique, donc par le corps. Donc oui, quand on apprend en bougeant, en activant nos muscles et nos articulations, on le ressent dans tout notre corps. Écrire une lettre en tout petit pour l'apprendre, c'est bien, mais l'écrire en gros au tableau avec une éponge mouillée en faisant un son, c'est extraordinaire.
Ah oui.
Et c'est beaucoup plus puissant.
Et ça a l'air amusant. J'ai presque le goût de le faire moi-même, Héloïse.
Merci.
Bon, justement, pour les parents qui nous écoutent, qui sont à la maison, pour qui les devoirs, c'est vraiment ardu à chaque soir, ou encore d'autres choses, là, vous avez mentionné attacher le manteau, la routine le matin, on est pressé, tout ça, ça fait partie aussi de l'apprentissage. D'une routine, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça devienne amusant et plus aisé pour notre enfant?
Je pense que les enfants, on leur dit souvent quoi faire d'abord. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. On leur dit souvent, bien, va t'habiller. Oh, mais va t'habiller, ça comprend mettre les bottes, mettre la salopette, mettre le manteau, mettre la tuque, mettre les mitaines. Et pendant que l'enfant fait ça, il peut être facilement distrait sur autre chose ou éprouver des difficultés lorsqu'il y a dyspraxie, par exemple. Alors, à ce moment-là, des routines sont très aidantes, des routines visuelles qui diminuent les mots nécessaires du parent.
Ah oui.
Et puis qui permettent à l'enfant de voir ce qu'il lui reste à faire. Un petit rappel visuel rapide, ça aide beaucoup. Donc, ça peut être fait pour l'habillage, ça peut être fait aussi pour les devoirs. Pour ce qui est des devoirs, c'est souvent très pénible pour les parents. Ce que je recommande souvent, c'est de prendre des pauses fréquentes, mais des pauses très courtes et très puissantes, très organisantes.
Okay.
Je m'explique. Donc, l'enfant sort ses devoirs, il s'installe. Une fois installé, on fait un 5 minutes de devoir, et puis ensuite, on fait une minute, 10 sauts.
Ah, oui, oui, oui.
Ensuite, un autre 5 minutes de devoir où on tranche selon la durée qu'on veut pour les enfants, ou avec laquelle on est à l'aise, mais un minimum de 2 ou 3 pauses, c'est pas de trop. Donc, des pauses pour bouger, sauter sur place, faire des push-ups, faire des pompes sur la chaise, souffler dans son point contre résistance. C'est toutes
danser
des choses...
Danser sur une musique que l'enfant aime,
danser,
ça pourrait être ça?
Absolument, oui. Chanter, mais une pause qui est structurée, parce qu'on veut pas que l'enfant parte danser jusque dans la cuisine.
Oui,
ou jusque dans
ça.
Une autre pièce de la maison. Donc, quelque chose de structuré et organisant.
Oui. Est-ce que la minuterie peut aider? On en entend souvent parler, là, que l'enfant puisse voir une horloge qui défile le temps. Pour lui, ça lui donne une référence.
Absolument. L'organisation dans le temps, c'est important. L'organisation dans l'espace aussi. Donc, les minuteries, celles que je recommande, c'est celles qui sont visuelles. Ça peut être simplement un sablier.
Ah, ben
on
oui.
voit le temps s'écouler. Par contre, une minuterie de cuisine qui fait juste ding, on ne voit pas le temps s'écouler. Donc, il existe des minuteries comme le Time Timer, les sabliers. Il existe des applications avec des minuteries visuelles aussi où on voit le temps qui s'écoule et le temps qui nous reste à passer. Donc, l'enfant peut se structurer comme ça.
Héloïse, le temps file, mais pour les parents qui se disent... Bon, les caractéristiques associées à la dyspraxie me semblent que ça ressemble à mon enfant, à mon neveu, à mon petit-enfant. Je fais quoi avec ça puisque ça semble si difficile à identifier, à être diagnostiqué? Il y a des professionnels de santé vers qui on peut se tourner?
Absolument. Les médecins et les ergothérapeutes. Donc, l'ergothérapeute peut faire l'évaluation de la motricité et le médecin, c'est lui qui va confirmer le diagnostic avec nos observations.
Oui, parce que après ces stratégies-là, on a parfois envie qu'elles suivent vers le milieu scolaire. On aura envie de sensibiliser l'enseignant de notre enfant à ce qui se passe, à ce qu'on fait à la maison, à ce qui fonctionne. On peut aussi en parler avec l'enseignant de notre enfant de ça.
Absolument. Et je vois de plus en plus d'enseignantes qui sortent et qui ont des activités qui sont en classe qui sont extrêmement puissantes pour les enfants. Par exemple, lancer le ballon à des élèves pour leur donner le droit de parole.
Ah, ben oui.
Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, les enfants, je peux vous dire qu'ils étaient extrêmement attentifs. Ils étaient actifs et ils étaient tous en attente pour répondre.
Ben oui, ben oui.
Bouger, sauter, c'est des choses qui sont bonnes pour les enfants de façon organisée. Manipuler aussi, manipuler les objets, par exemple des bâtonnets à café pour les additions. Les additionner ensemble, mm-hmm. faire des groupes. Ensuite, ça va être intéressant quand on va vouloir instaurer, par exemple, les fractions. Mm-hmm. Donc, on va pouvoir montrer à l'enfant pourquoi une demi égale 3/6 mm-hmm. en coupant deux bâtonnets de façon différente. Donc, ça va être visuel, manipulé. Je pense que c'est ça qu'il faut...
Ouais.
Et les enseignants, de plus en plus, sont très sensibles à ça.
Et le plaisir dans l'apprentissage, je le répète, c'est très important. En terminant, ce quatrième grand défi de l'apprentissage d'un colloque pour parents, c'est 16 conférences dans une journée complète. On va parler, oui, de dyspraxie avec vous, Héloïse Allard, mais également de TDAH, d'anxiété, troubles du spectre de l'autisme, dyslexie, en fait, plein de troubles d'apprentissage. Vous allez être sur place. C'est un bon outil pour les parents, cette journée-là?
Oui, et je pense que c'est enfin de reconnaître que la différence, ça va être des atouts pour les enfants. Léonard de Vinci était dyslexique et oui. Il a fait des merveilles.
Oui.
Et le Harry Potter, l'acteur qui a fait Harry Potter, a aussi une dyspraxie, un TAC.
Ah, mais c'est vrai qu'il y a plein d'individus qui ont des troubles d'apprentissage.
Et, oui. Et les enfants qui ont des difficultés ont des grandes forces, la créativité, l'humour. Et ils ont des grandes forces d'adaptation aussi. Donc, je pense que ça va être d'utiliser leurs forces comme bras de levier et de s'outiller avec tous les kiosques, les exposants qui vont être là et les conférenciers pour aller chercher le plus d'outils et d'interaction avec les parents.
Dans votre cas, c'est en après-midi. Héloïse Allard, vous êtes ergothérapeute, propriétaire de la clinique pour enfants ErgoClick. On peut aller, vous avez un site également, on peut y aller, ou instituta.com également pour en savoir davantage sur cette journée, quatrième grand défi de l'apprentissage, un colloque pour les parents. Merci beaucoup, Héloïse.
Merci infiniment à vous.